Aujourd'hui, la masterclass de Dominique A avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass de Dominique A qui se déroule à la Maison de la Radio. Le principe de cette collection est le suivant, savoir comment un artiste construit une œuvre, au sens vraiment de la fabrication de celle-ci, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère l'œuvre comme achevée. Les créatrices et les créateurs donc se succèdent à ce micro pour nous raconter le processus d'élaboration. Dominique, on pourrait commencer par la question la plus évidente. Qu'est-ce qui vous a conduit au départ vers la musique? Est-ce que la musique était présente dans votre environnement familial?
Oui, elle était présente via une trentaine de 33 tours. Il n'y avait pas d'instruments. Il y avait des 33 tours donc de chansons françaises, les grands anciens, la table ronde, quoi, on va dire. Peu de femmes à part Anne Sylvestre, en dehors de ça. Et je pense qu'en fait, j'ai une espèce de souvenir un petit peu, sans doute, qui est une construction, hein, une espèce de mythe intime, qui est une fois de descendre l'escalier. Alors j'étais en... Je vivais sous les combles, dans une grande maison en Seine-et-Marne, en pleine cambrousse. Et je me revois descendre l'escalier et voir un disque tourner. Et c'était un disque de Brel, et il y avait la fanette de Brel. Et en fait, je dirais que j'ai l'impression que cette... Alors, c'est sans doute une construction a posteriori, hein, mais j'ai l'impression que cette chanson m'a totalement construit, qui répondait tout à fait à ce que j'attendais de la musique, à laquelle j'étais déjà sensible, parce que j'étais très très friand des génériques télé notamment, et de d'émissions pour enfants, enfin de feuilletons pour enfants, qui étaient souvent d'ailleurs écrits composés en accord mineur. C'était beaucoup plus finalement mélancolique que qu'aujourd'hui, enfin je crois. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment ce souvenir qui me revient, et puis c'est le rapport à quelque chose qui tout à coup une petite œuvre qui met le doigt sur vos sentiments enfouis, même s'ils sont encore très difficilement formulables et formulés à l'âge de j'avais 7 ans. Mais en tout cas, ça a été un vrai bouleversement.
Cette chanson, vous l'avez chantée après ?
Pas plus tard qu'avant-hier.
Sur scène ?
Ouais, sur scène. C'est une chanson que je reprends. J'avais fait une tournée avec un spectacle autour d'un bouquin que j'avais écrit sur mon enfance, qui s'appelle Y revenir. Et pour moi, il était inconcevable de ne pas reprendre cette chanson, puisqu'elle était vraiment fondatrice. Et c'est vrai que c'est devenu maintenant quelque chose de... Quand je suis en solo sur scène, c'est quelque chose... J'y reviens. J'y reviens parce que j'en fais une version complètement dénudée, complètement ascétique. Et je m'y fonds.
À partir de cette chanson, à partir de 7 ans, il y a une découverte de quelque chose qui vous touche, qui provoque des sensations, des émotions. Mais ensuite, j'imagine qu'il y a le cinéma qui prend la place, il y a la littérature qui prend la place, les arts plastiques qui prennent la place. Qu'est-ce qui fait que c'est quand même vers la musique que vous allez ?
C'est les livres surtout qui ont pris la place après. En fait, il n'y a pas eu de choix véritablement. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression longtemps de m'orienter vers le dessin, mais la musique continuait à m'accompagner. Surtout, je commençais à écrire des poèmes, je commençais à faire des cassettes. Mon père, un jour... En fait, mon approche de la musique a toujours été liée à du matériel. Et un jour, mon père a acheté un magnéto-cassette, un radio-cassette. J'avais 11 ans et demi, et je me suis jeté dessus, littéralement. Je l'ai squatté totalement. Et je faisais des cassettes de chansons improvisées. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel. Je ne me posais pas la question de dois-je le faire ou pourquoi est-ce que je vais le faire, ou c'était juste une naturelle, alors que mes pas me conduisaient apparemment plus vers le dessin. J'adorais, j'aime toujours d'ailleurs la bande dessinée, et je rêvais d'être dessinateur de bande dessinée. Mais en parallèle, donc je dessinais beaucoup, j'écrivais beaucoup, et en parallèle, il y avait la musique qui était là, et qui est devenue vraiment prépondérante, justement le jour où ce radio cassette est arrivé, et où j'ai commencé à écouter d'autres disques que ceux de mes parents.
Mais le début, la première fois sur scène, Dominica, c'était avec un groupe, c'était jeune?
Oui, j'avais 14 ans, c'était un groupe de lycée, on faisait des reprises. J'étais
des reprises
en pyjama.
De qui?
Des jams, Stranglers, Clash, enfin toute la scène post-punk. Il y avait un micro pour deux et je courais après le micro, je faisais les chœurs. J'avais juste droit d'interpréter en solo une espèce de reggae qu'on avait composé, un reggae punk. Qui s'appelait Entre mes éléphants roses.
C'était quoi les premières émotions sur scène?
Ah bah la première émotion, c'est tout simplement un sentiment de liberté, enfin le truc classique du timide qui est extraverti, quoi, enfin un truc banal, un vrai sentiment de liberté que j'ai retrouvé quand j'ai fait ma première vraie scène avec un rôle de leadership quelques années plus tard, où là je me suis dit bon, c'est un espace d'expression et libération totale. Et ça a été là aussi de l'ordre de l'évidence. Il n'y a pas eu de douleur. C'était au contraire une vraie porte de sortie, quoi. Un sas.
On reviendra bien sûr sur la question de la scène, mais venons au premier disque. Le premier vrai disque de Dominica, c'est le disque sourd. Mmh. Un disque sourd avec une autonomie de production. Mmh. C'est en 1991, autoproduit, donc qui contient déjà des morceaux, certains des morceaux qui seront dans la fossette. Le premier, oui. On va dire, véritable album, officiel, dans la mesure où il sort sur un label, Lithium, numéro 003, de ce grand label. D'un disque sourd à la fossette, c'est le grand saut. Vous vouliez un son très simple. Comment est-ce que vous avez enregistré ces disques, Dominica?
Alors j'étais très sensible depuis le début des années 80 à ce mouvement qu'on a appelé la technopop, avec des synthés et des choses comme ça. Et j'avais trouvé dans une brocante un synthé, le Yamaha PSS 580 pour être exact, avec des programmations qui permettaient de lancer des boîtes à rythme et des basses très facilement, des trucs préprogrammés. Et dès que j'ai eu cet instrument entre les mains, j'ai senti que j'avais un allié. J'avais été très sensible et très à un disque de Jean-Louis Murat qui s'appelle Chez Yanoton, où ce disque a été pour moi un tournant dans la mesure où, sans être un disque de technopop, mais où il y avait cette idée justement de clavier très vaporeux et l'idée que le chant français pouvait s'accommoder d'un chant plus mesuré, moins en quête de trip, si j'ose dire, enfin, et moins en quête d'une émotion très très forcée, beaucoup plus sur le registre d'une forme de retenue, de sobriété dans l'interprétation, et ça a été déterminant pour moi. Et quand j'ai trouvé ce petit clavier dans une brocante, je me suis dit je vais reprendre cette idée de chant un petit peu diaphane avec cet instrument. Et l'idée aussi, c'était vraiment de ne pas passer par un studio, donc c'était la démocratisation des quatre pistes cassettes, donc qui étaient des trucs pour faire soi-disant ce qu'on appelle des maquettes, c'est-à-dire des pré-enregistrement, mais pour moi qui était, j'adorais la rugosité, les aspérités de ce son-là. J'étais farouchement déterminé à ne laisser aucun ingénieur du son mettre les pattes sur mes chansons. Et surtout, je revendiquais vraiment une forme d'assèchement total. Et du texte, et de l'interprétation, et de l'instrumentation, une forme de finalement de blues sans le ventre, quoi. Et donc je suis parti là-dessus, et c'est vrai que c'était de l'autonomie et c'était une forme de d'amateurisme, on va dire, éclairé, parce que je le faisais quand ça me prenait. Des fois j'allumais le machin, j'essayais des choses, je plaquais deux accords, une chanson naissait comme ça, avec sur la base d'un texte de 6 à 8 phrases, et j'avais l'impression de pas d'inventer quoi que ce soit, parce que ça faisait écho aussi à des choses du début des années 80, ça renvoyait à la scène française technopop du début des années 80. Mais j'avais l'impression vraiment de développer quelque chose qui m'était propre, et surtout ça me permettait de justifier auprès de mes camarades. Je fréquentais beaucoup les gens des Beaux-Arts de Nantes. Et comme j'étais pas au Beaux-Arts moi-même, ça me permettait de justifier d'une forme d'activité, moi qui n'en avais pas beaucoup par ailleurs, et surtout d'avoir au moins une espèce de d'être considéré moi aussi comme un artiste, quoi.
Alors ce rejet du studio, bon, il a beaucoup évolué, ce qui est assez logique, mais justement aujourd'hui il y a 11 albums si on inclut un disque sourd au compteur. Est-ce que Vous avez le sentiment qu'il y a une progression, Dominika, dans votre rapport à la construction, conception, processus d'élaboration d'un album. Est-ce que il y a des choses qui se font en à-coup, en réaction au précédent, ou est-ce que vous suivez une ligne selon vous?
Un peu des deux, en fait, à vrai dire, parce que j'ai l'impression finalement que les disques se répondent quand même pas mal. Ils sont, c'est une espèce de communication entre les albums, et puis avec des retours sur soi, avec des fois justement avec une expérience un peu plus. Avec un sentiment d'être un peu plus aguerri justement par rapport à ses idées de production et un peu moins borné surtout, il y a quand même des disques qui sont faits presque en rapport avec le premier, qui reste pour moi voilà le disque plus important de ma vie. C'est clair que le premier officiel, La Fossette, je pense que d'une certaine façon je ferais pas mieux. Faut
être honnête. Vous dites ça?
Oui, je me dis ça, oui.
Vous dites pas que vous faites des chansons meilleures aujourd'hui qu'hier, mais qu'au contraire, les meilleures c'est celles du premier album?
Non, les chansons sont pas meilleures. Mais la force de la proposition, y a pas photo. C'est beaucoup plus, c'était beaucoup plus radical, beaucoup plus.
La radicalité plus, n'est pas tout.
Non. Mais il y a une forme de pour moi, il y a une forme de poésie complètement inconsciente, quoi. Que je n'ai plus. Aujourd'hui, je fais de la poésie beaucoup plus consciente d'elle-même.
Il aurait fallu arrêter, faire comme Young Marble Giants, album.
La question s'est posée. Et si je continue, c'est que j'adore faire ce métier et que j'estime que j'ai encore des choses à raconter. Et surtout que mon rapport à l'expression et mon rapport justement à la place du texte dans la musique a beaucoup bougé. Et que j'ai pas le sentiment d'être sec ou d'être devenu quelqu'un qui cachetonne ou je ne sais quoi, mais c'est clair que si on me doit sans arrêt me renvoyer à ce premier disque, ça me va, même si je considère qu'il est pas évidemment il est plein de défauts, mais je suis pas non plus naïf. Je sais que si je suis là, c'est grâce à ce disque là. C'est un peu paradoxal comme point de vue, hein, je reconnais, mais voilà.
Alors parlons écriture, alors justement, ouais. Dominika, l'écriture d'une chanson, comment naît une chanson? Au départ, il y a quoi? Il y a une idée, il y a des mots, il y a une image, une couleur?
Au départ, je dirais qu'il y a une forme de projet, c'est-à-dire que je suis très attaché à l'idée de produire des objets. Donc c'est vrai que le fait de m'apercevoir que, par exemple, l'objet disque, finalement, a toujours une vie, que la musique n'a pas été totalement dématérialisée, pas totalement. Voilà, ça me permet déjà d'imaginer quelque chose, de concevoir, d'avoir envie de. Ça naît toujours d'une insatisfaction par rapport au travail précédent, une forme de dénigrement de ce que j'ai fait juste avant. Ça vient de l'expérience scénique où j'ai l'impression qu'il y a une piste qu'à un moment donné qu'on n'a pas creusée. Et ça peut survenir pendant les balances, c'est-à-dire avant le concert, les essais de son. On essaye un petit truc, je me dis tiens, c'est marrant si on essayait ça. Et ça peut me donner vraiment très intuitive une direction que je vais suivre après pendant 2-3 ans. À partir du moment où j'ai cette idée-là, je dirais que les chansons vont arriver généralement un peu en bloc, et c'est un processus alors de décantation, on va dire, parce que la scène vous éloigne de l'écriture, enfin, moi m'éloigne de l'écriture totalement, c'est-à-dire j'ai l'impression d'être complètement sec et inapte à concilier écriture et représentation. C'est presque deux métiers. Celui qui m'intéresse le plus, c'est l'écriture. En fait, c'est vraiment cette période là que je vis actuellement de un petit peu de repli sur soi, de non-divulgation, et où je commence à faire écouter autour de moi, genre à recueillir des avis, et on commence vraiment à travailler, à rentrer dans le vif du. Ça, c'est vraiment le moment que je préfère. Et il n'y a pas, à partir de là, une chanson en tant que telle, à partir du moment où je suis dans ce processus-là, elle va d'abord naître principalement du texte. Mais là, je fonctionne un petit peu différemment actuellement, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont arrivées sur une rythmique. J'ai acheté une boîte à rythme allemande qui est époustouflante et je m'amuse comme un gosse avec. Et souvent, j'avais beaucoup de textes qui étaient écrits, des fois même des. Pas forcément des textes de chansons d'ailleurs, je suis en train de travailler sur trois projets différents, à vrai dire. Et des fois, une simple rythmique peut vraiment me donner une forme de métrique un peu aussi, de rythmique du chant. et ou de l'addiction, parce qu'il y aura il y a un volet que je prépare. Je travaille sur trois disques différents, et il y en a un où il y a vraiment, ça sera vraiment des espèces de poèmes mis en musique avec parler, en spoken word comme on dit, et qui c'est assez libératoire justement d'abandonner un petit peu le chant. Alors il y aura du chant sur les deux autres disques, mais je sais que j'ai pas une voix de conteur, hein, c'est pas le propos de m'improviser conteur, mais en tout cas ça m'amène aussi sur des terrains textuels un petit peu différents, un peu moins corsetés en termes de métrique. C'est-à-dire que je fonctionne beaucoup quand j'écris des chansons sur l'octosyllabe, enfin des textes de chansons, l'octosyllabe et l'alexandrin. Donc c'est souvent du 8-8, des strophes de 8 phrases avec, et j'ai vraiment du mal à sortir de ça. C'est un espèce de repère, je fonctionne bien là-dedans, et c'est très naturel pour moi d'aller vers là. Il faut vraiment que je me fasse violence pour en sortir, et le chant, la façon de découper les mots me permet de contourner un petit peu cette forme de choses qui pourrait être assez rébarbative dans le rendu, si justement je ne cassais pas un peu la métrique par le chant, par la rythmique. Mais c'est vrai que je fonctionne beaucoup là-dessus, sur ces octosyllabes et ces alexandrins.
Alors on va peut-être prendre quelques exemples dans un instant, Dominica, mais vous disiez penser en termes d'objet, de projet. Alors on parle souvent des chanteurs engagés, de la dimension politique des chansons. C'est vrai que si on demande de citer des chanteurs politiques, votre nom figurerait pas en haut de la liste, j'imagine,
non,
comme ça.
J'espère bien.
Il n'empêche que vous avez, vous, une action citoyenne, militante, et d'investissement, notamment chez vous à Nantes. Est-ce que dans vos chansons, pour vous, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un message à faire passer aux futurs auditeurs? Est-ce que ça peut aussi, où il y a des disques qui ont été davantage axé sur cette dimension politique au sens le plus noble de ce mot?
Là j'évolue. J'ai l'impression d'être un peu plus concerné par ce qui se passe autour de moi, que c'est quelque chose qui est venu vraiment très très progressivement, très tardivement. Après, je me méfie évidemment comme la peste de tout ce qui est du domaine du discours dans une chanson, puisque souvent si j'ose dire, on sloganise. Une idée devient un slogan, et voilà, c'est pas. Après, je pense qu'il y a tout simplement dans les chansons une attention portée à l'humain. Voilà, de toute façon, à la base, donc on est dans la politique n'est pas loin, quoi. Enfin, c'est compliqué parce que je considère que plein de choses sont politiques, donc de façon explicite, non, il n'y a pas des textes. La chanson, je dirais, la plus, on va dire, la plus impérative, c'était Rendez-nous la lumière, qui est un texte assez naïf, qui a surpris beaucoup les gens qui m'écoutent depuis longtemps, et puis des gens avec qui je travaille. Ils me disaient, tu te rends compte que c'est un petit virage là dans ton écriture, et je m'en rendais même pas compte. Je dis, non, j'avais envie d'exprimer les choses frontalement, sans détour, sans forcément métaphore. Encore qu'il y en a même dans cette chanson-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je parle de religion dans cette chanson, c'est pas très très clair. Enfin, je parle des cieux embrigadés. On goûte au pieux mensonge des cieux embrigadés. Donc, c'est une façon un petit peu alambiquée de parler de l'accaparement du ciel par les religions, la voûte céleste par les religions, et c'est vrai que c'est une exception, mais c'est pas quelque chose qui me pose problème. En fait, je trouve bien justement d'avoir été sur ce terrain-là de façon un peu frontale à un moment donné. Et puis là, j'écris des chansons. Je suis en train de faire en même temps le listing dans ma tête des chansons que je suis en train d'écrire. Il y a des choses, il y a des sujets qui sont abordés. C'est-à-dire qu'avant, je me méfiais du fait d'aborder l'écriture d'une chanson avec un sujet. Je me disais, ça, l'intention, ça parasite finalement la poésie, en fait. Et du coup, là, dernièrement, j'ai fait une chanson qui s'appelle La Poésie.
Qui parle donc de politique. Non.
Oui, d'une certaine façon, du rapport au monde, en tout cas. Si on considère que le rapport au monde, c'est la politique par excellence, mes chansons sont pleines de politique.
Oui. Mais la chose qu'on peut se demander souvent quand on vous écoute, et qu'on vous écoute depuis longtemps, Dominica, c'est de savoir si toutes vos chansons parlent de vous, ou est-ce qu'il y a un subtil mélange entre pure fiction et autofiction?
Je pense que oui, je suis désolé de donner des fois des réponses un peu caricaturales et un peu simplistes, mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui vous disent que, quel que soit le domaine artistique, en fait, je découvre ce que j'ai dit quand je l'ai fait. C'est un peu vrai. Et puis c'est un peu vrai que autant il y a des chansons qui sont, il y en a assez peu qui sont explicitement et très clairement autobiographiques. Il y en a, les deux principales s'appellent Rue des Marais et Les Terres Brunes, qui parlent vraiment de l'enfance en Seine-et-Marne. Autrement, c'est plus des choses que j'injecte, ou finalement des choses après qui me reviennent, comme des, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, et c'est des fois des choses qui sont très 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 basiques, quoi. Des fois j'utilise des choses que j'observe pour les glisser dans la chanson, mais voilà, au détour d'une phrase, ça va pas forcément être constituer le socle de la chanson elle-même, enfin du texte en tout cas.
Alors quelques exemples, parce que la masterclass musicale forme un peu particulière. Alors si jamais on écoute cette émission en podcast, le plus simple c'est de faire pause, d'écouter les morceaux dont on va parler en entier, et puis de revenir entendre Dominika en parler. Nous, on va quand même en entendre un petit peu ici, parce que j'aimerais qu'on s'arrête sur quelques chansons. Alors, c'est un choix extrêmement subjectif, hein, je revendique pleinement, parce que ce sont des chansons qui datent de différentes époques, mais que moi, j'écoute toujours et très régulièrement. Là, je dois dire quand même au passage que le dernier album en date, Eleor, que vous avez d'ailleurs... donné à entendre dans l'auditorium de Radio France. Bon, il n'y a pas de point faible. Alors ça, c'est un peu embêtant parce que j'ai l'impression qu'il est assez miraculeux. J'aime tous les morceaux. Mais comme on va en entendre aucun de celui-là, il faudrait qu'on remonte un peu plus dans le temps. On va commencer, on va entendre ici les premières mesures par l'horizon.
Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. Des baleines épuisées gémissent sur la grève. Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons, comme autant de collines occultant l'horizon. De crêtes insensibles à la nature des plaines. Je suis vraiment navré, te dit le capitaine. Et tu sens qu'il dit vrai et qu'il a le cœur bon. Dès lors la bouche fermée d'une femme au harpon qui entre dans tes murs et saigne les baleines. Te fait des mois durant dédaigner l'horizon. Et lorsque tu le croises, snobber le capitaine. Quand tu rentres chez toi, tu te dis qu'il fait bon. Le mensonge est partout infiltré dans tes veines.
Alors c'est un récit épique, l'horizon, une adresse, un personnage. On reviendra sur ce tutoiement. On est chez Melville, on est chez Conrad, clairement. Oui. Musicalement, ça commence comme une comptine, puis ça gonfle, une tempête qui se soulève, puis l'arrivée des chœurs masculins, les marins, puis une guitare diabolique, et puis une rupture au bout du souffle, avec ce mot sur lequel la chanson vient buter, l'horizon. Puis c'est une cavalcade. Voilà, comment est né ce morceau, Dominika?
Alors j'ai un souvenir très vif de l'écriture du morceau en fait. Parce que j'étais dans un cadre un peu particulier. J'étais en vacances au Groenland.
En effet.
Et sur un bateau. Je sortais d'un disque qui avait pas très bien marché, qui s'appelait Tout sera comme avant, où il y avait cette volonté d'être plus explicitement épique, de mesurer un petit peu au disque que j'avais écouté quand j'étais enfant, les disques de Ferré, de Brel, etc. Et d'être moins dans cette idée de minimalisme auquel j'étais sans cesse rappelé. Enfin, et donc j'étais sur ce bateau et il y avait un capitaine et la phrase m'est venue face à un glacier. Nous n'irons pas plus loin de fait parce qu'on était bloqué par le glacier. Te dit le capitaine. Et là ça a été tout s'est déroulé pendant, on va dire, 3 heures, le temps de la traversée, après, le long du fjord, tout s'est déroulé, et j'ai eu l'impression d'avoir écrit d'avoir posé la pierre maîtresse du disque après lequel je courais à ce moment-là. Et c'est un morceau que j'aime encore beaucoup, dans, y compris dans sa réalisation, parce qu'il y a des fois des morceaux qu'on aime bien, mais dont la réalisation laisse à désirer ou frustre après coup. Celui-ci, ouais, il y a quelque chose que, en l'écoutant, je me disais, ah, c'est pas dégueulasse quand même.
Mais côté production, justement, comment est-ce une fois que vous êtes revenu du Groenland, des vacances, ouais, quand vous êtes en studio, comment vous, bah, vous gérez? Il y a vraiment une progression dramatique, dramaturgique, ouais, dans cette chanson, comme dans souvent, c'est souvent le cas, mais celle-ci très particulièrement, c'est une chanson d'aventure, on pourrait dire.
Ouais, 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 ouais. J'étais, alors, musicalement, à cette période-là, j'étais un peu obsédé par le premier album de Leonard Cohen. J'aimais beaucoup dans ce disque-là le fait que l'espace qu'il y a dans ce disque qui est dingue, quoi. Bon, ça tient à la qualité du matériel, sans doute d'enregistrement, de la production, des choix de production, avec cette idée que finalement on a l'impression, quand le disque se finit, qu'on a entendu un type avec sa guitare, et en fait plein de choses à l'arrière-plan se dessinent, plein d'arrangements sont là, pour plein de chœurs aussi sont là vraiment pour soutenir l'ossature des chansons, et c'est ce qui fait aussi la qualité de ce disque, indépendamment des qualités d'écriture évidemment et d'interprétation, c'est l'arrière-plan. Et je voulais qu'on travaille cet arrière-plan et que cet arrière-plan ne soit pas écrasé par la basse batterie, parce que la basse batterie, ça prend toujours sur scène comme sur disque énormément de place. Des fois c'est bien, mais à ce moment-là j'avais pas envie de ça. Et surtout, je sortais d'une tournée justement où par rapport au disque précédent qui était très chargé et harmoniquement et rythmiquement, j'avais pris l'option avec un groupe de musiciens de ne pas partir sur avec une basse batterie et d'essayer de travailler sur la rythmique interne des morceaux. Enfin, rythmique interne, c'est-à-dire sans le balancement tout simplement des morceaux, sans les appuyer par une caisse claire et des notes de basse. Avec ce groupe-là, l'idée est venue tout simplement de continuer ce travail-là, mais sur le temps d'un album. Donc, c'est les mêmes personnes qui jouaient sur la tournée qui précède l'enregistrement de ce disque, qui m'ont accompagné en studio. Mais il y avait cette idée de retour un petit peu à un travail de solitaire en bonne compagnie. C'est-à-dire que au départ, j'étais seul. C'était vraiment du guitare-voix. Je suis allé dans un magasin de guitare, j'ai acheté une guitare folk. Et puis voilà. Et puis j'ai travaillé là-dessus. Et après, mes copains m'ont rejoint et on a travaillé sur le disque. Et je travaille avec le même ingénieur du son depuis maintenant de nombreuses années. C'est un peu mon alter ego. Il a le même système capillaire que vous et moi, Arnaud. Il s'appelle Dominique aussi. Et on travaille c'est vraiment un ping-pong permanent entre lui et moi. Et à chaque fin d'enregistrement, chaque fin de tournée, on se dit bon, on va quand même pas remettre ça la prochaine fois ensemble. Et puis il y a toujours un moment, toujours une conversation dans une salle après un concert. On se dit quand même, il y a des trucs qu'on n'a pas fait encore. Et puis là, c'est reparti. Là, on va encore faire un disque ensemble. Il faudra que l'un de nous deux casse sa pipe, je pense, pour qu'on en parle plus.
Bon, on souhaite que ce soit le plus tard possible. Pour revenir à l'écriture, l'adresse, le tu que vous employez très souvent, ouais, dans vos chansons, il est venu comment?
Je pense que c'était une façon de signifier de façon inconsciente à l'auditeur que je ne parlais pas de moi. Et de signifier la part très fictionnelle des chansons, et puis aussi de revendiquer une certaine hauteur de vue presque un peu omnisciente et un peu démiurgique comme ça, mais bon, assumer, c'est-à-dire je sais ce que tu vas faire, tu es en train de te planter, mais je te regarde faire, et il y a un truc comme ça très un peu. Une hauteur de vue, ouais, dont faut se méfier. Quand j'en ai pris conscience, je me suis dit bon, qu'il fallait que j'aille que ce soit pas un systématisme, mais je dirais que ça s'impose des fois sur des chansons. Sur une chanson comme celle-là, à l'horizon, je voyais le personnage se débattre un petit peu dans sa quête, et je ne pouvais pas ne pas m'adresser à lui, parce que je me projetais aussi en lui, évidemment. C'est une façon de se projeter en même temps, et tout en mettant une distance, de la même façon que, de façon très 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 basique et très très, mon pseudonyme, tout simple qu'il soit, c'est juste, j'ai juste écourté mon nom, mon vrai nom, Anneck. Mais c'est quand même une petite distance que je mets, et c'est une façon de signifier aux gens, voilà, c'est en quelque sorte, c'est une construction.
Alors deuxième chanson qu'on va entendre, j'ai choisi évidemment des chansons assez différentes dans leur musicalité, dans leur écriture, et celle-là, elle commence, on va dire, comme un blues, ou comme un blues qui déraille.
C'est un grand pavillon au milieu d'une impasse. Il n'y est pas venu depuis quelques années. Ses sœurs sont déjà là et ses craintes levées. Des fois à se revoir, on se dit que tout passe. Et sa mère est heureuse, et c'est là l'essentiel. Et la table déborde, et tout a l'air léger. Les je t'en veux d'hier meurent dans la bouteille. Finalement se revoir, c'était une bonne idée. Ça n'aidait pas, faut dire, quand papa était là. Finalement c'est lui qui l'a dit, il fallait que quelqu'un se dévoue et la main sur son bras. Sa mère le reprend et lui dit s'il te plaît. Mais dès lors tout déboule par un coup gentiment. Tous les et les fois où merci, rappelle-toi d'anciennes guerres, des nerfs tombent mortes du toit. Et la musique, l'horreur, tu te souviens, maman. Il ne supportait pas, sauf quand c'était mensuel. Tu savais que papa, il écoutait Mansell. Qu'il se passait les disques que tu avais laissés. Ça m'étonne pas de lui qu'il t'en ait pas parlé. Il imagine son père qui écoute lumière.
Alors c'est l'histoire d'une famille,
ouais.
Une famille qui s'est brisée. Possiblement l'histoire d'un deuil. Bon, c'est une chanson qui me bouleverse, mais ça c'est personnel. C'est une écriture qui est à la fois dans la douceur et dans la douleur. Puis il y a cette guitare solo qui émerge comme ça, très délicatement. Puis ça finira par une envolée instrumentale lyrique. Puis une fin comme quelqu'un qui s'éloigne sur la route, un film de Charlot quoi. Et puis l'apparition de Gérard Manset. Manset, c'est le titre de cette chanson. Évidemment un musicien, auteur, compositeur, interprète important, mais qui me fait aussi penser cette chanson qui s'appelle Manset. Elle aurait pu s'appeler Bachung aussi, j'ai l'impression.
Ça a été plus difficile pour les rimes.
D'accord.
Ouais, je sais pas, là c'est vraiment lié. Manset, c'est affreux ce que je vais dire, hein, mais c'est comme s'il était mort. Non pas qu'il n'est pas productif, hein, mais il y a quelque chose de... S'il entend ça, il va même déjà pas beaucoup.
Il écoute beaucoup France Culture, donc
il détester.
Vous savez qu'il va vous écrire.
Non, mais en fait, rien que dans son nom, c'est comme un verbe à l'imparfait. Je m'en sais, tu m'en sais, il m'en sait. Et je trouve que tout est. Il y a quelque chose de très qui ramène ce qui est finalement inconfortable quand on écoute Manset. C'est ce rapport finalement à la mort qui est fascinant, qui fait que son œuvre est considérable. Pour moi, c'était évident que c'était lui qui devait être le point central de cette histoire qui m'est, alors là, je précise, venu, je ne sais trop comment. En fait, j'imagine, je visualise dans cette chanson, il y a une maison près de chez mes parents. Et pour moi, c'est la maison de la chanson, en fait. Et je passais, quand j'étais adolescent, tous les jours devant cette maison. Et en passant devant les maisons, souvent, je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Quelles sont les vies des gens? Et très rapidement, quand j'ai commencé à écrire le texte, c'est cette maison c'est ce pavillon que j'ai vu apparaître. Et après, je ne sais pas pourquoi, j'étais parti sur l'idée de faire des chansons avec un peu des obsessions musicales. Donc j'en ai fait, c'était un 4 titres qui était vendu à part, sorti d'un disque en 2009. Et il y avait, chaque chanson de ce 4 titres faisait référence ou à un label de musique, soit à des chanteurs qui m'ont accompagné ou formé, comme Manset, comme Gisor, un chanteur obscur des années 80. Et voilà, Manset, c'est venu de là. C'est vraiment, il y a une jubilation aussi à chanter au bout d'un moment, d'avoir apparaître un nom comme ça, faire du name dropping, mais un peu de façon inattendue. sans que ce soit pour autant que la chanson gravite autour de Manset, du personnage, mais que ce soit pas une chanson sur lui.
Bah, c'est une chanson sur la mère, c'est une chanson sur le père, c'est un hommage à ces figures-là, sur la filiation, sur la transmission.
Sur ce qu'on loupe, sur ce qu'on rate totalement dans les rapports familiaux, simplement.
Bah, tiens, ce qu'on loupe, ce qu'on rate.
Le fiasco familial.
Une autre chanson, alors, qui me tire des larmes, tiens.
Quand elle est arrivée, l'aube est une épave de nuit gâchée. À feindre d'être sans entrave, à mimer la joie de l'ivresse, sous les rires des feux de détresse, qui ne s'éteignent jamais vraiment. Ce soir tu m'as vu autrement, à cause d'un moment, d'une éclipse, d'un geste retenu. Il aurait mieux valu, même un faux mouvement, même un regard froissé, plutôt que ce geste évité, ce geste absent. Nous nous sommes tout permis.
Alors, ce geste absent, Dominica, la quintessence du slow. L'histoire du délitement d'un couple, là encore il y a des entrées d'instruments extrêmement délicates comme celle d'une ligne de basse par un synthé, puis un piano qui semble comme ça égrener le temps. On est vraiment dans au plus près de l'intime. Ça vient quoi? Il y a un carnet de notes de Dominica où il y a effectivement des alexandrins ou des octosyllabes qui sont là, ou enfin des...
C'est délicat à dire ça vient d'où, parce que c'est vraiment Alors autant sur les chansons dont on parlait précédemment, l'horizon immense, j'ai un souvenir assez précis de soit du contexte, soit l'image une image qui s'impose. Autant ce geste absent, et comme tant d'autres chansons, j'ai aucun souvenir de son écriture. Je me souviens juste que quand on travaillait, donc c'était pour le disque Vers les lueurs en 2012, on avait travaillé sur toute une série de morceaux avec le groupe, et l'idée c'était vraiment d'enregistrer en conditions live, en studio. Et de fait, ça, on l'a enregistré. Ça, par contre, je me rappelle, c'était une fin de journée où on avait un peu de temps devant nous et on s'y est collé. Mais j'avais honte de la faire, de la soumettre au groupe. J'ai pris 1000 précautions en disant, attention les gars, là, c'est un peu variétoche et tout. Mon idée, c'était de faire un slow à la Christophe, autre figure tutélaire, bien sûr, de la chanson en France. Et puis, j'avais un peu, j'étais pas à l'aise en fait. Je me disais, est-ce que justement, j'approche de terrain que je n'aime pas moi-même. Mais j'ai une chance, c'est que en fait le timbre de ma voix est des fois tellement trop chargé de pathos que finalement je ramène tout à la maison, et la maison n'est pas très mainstream en fait. La maison n'est pas très variétoche en fait. C'est rigolo, une fois j'avais fait une chanson, un duo avec Philippe Catherine. Une chanson que j'avais ramenée comme ça, que je trouvais assez marrante, qui s'appelle Manque-moi moins. On avait fait ça, Manque-moi moins. Philippe est arrivé en fin d'enregistrement, et l'ingénieur du son, alors que moi je pensais vraiment faire un truc très, une galéjade, m'a dit, ah, c'est bien, Philippe amène toute la légèreté, et toi tu ramènes tout vers un peu plus de gravité. Et je me disais, même le truc un peu marrant, non, ça passe pas, quoi. Et là, c'est en fait, ce geste absent, je dirais, le côté qui pourrait y avoir, comme on dit, un peu cheesy, un peu mélo, finalement, il est annulé par cette espèce de lourdeur de l'interprétation en fait, qui est ma force et ma faiblesse, et puis que voilà, j'assume totalement, hein, bien sûr.
Mais ça vous fait quoi de vous écouter? Là, pour des morceaux anciens, je parle pas quand on est en production.
Quand c'est bien, ça me fait plaisir. Non, sur les morceaux que vous passez, là, je vous remercie. J'ai plutôt en empathie avec ces morceaux-là. Après, c'est vrai que je me suis aperçu que j'étais, par exemple, beaucoup plus à l'aise en écoutant Manset et L'Horizon que ce geste absent. Donc,
parce qu'il y a, toujours cette, alors, la gêne qui était initiale à la présentation.
Elle perdure un petit peu. Alors que la chanson, je l'aime, hein, je la trouve belle, etc. Mais comme, mais là, il reste un petit truc du petit doute initial, en fait, qui reste. Et en fait, c'est marrant parce que justement, à l'époque, quand on a enregistré cette chanson, on enregistrait beaucoup des autres morceaux du disque avec un quintet avant. Bon, ils travaillaient sur des arrangements qui étaient écrits. Et donc, ils ne connaissaient pas les quelques chansons qu'on avait qu'on jouait à 5, juste le groupe électrique, sans eux. Et je me rappelle leur réaction où ils étaient vraiment, assez bouleversés, hein, je peux le dire, par la chanson. Et j'étais très surpris parce que je nourrissais de sérieux doutes.
Vous vous rendez pas compte, Dominique, de ce que vous produisez comme effet. Alors, tiens, on va terminer cette playlist subjective avant de revenir sur les questions plus générales avec du gros rock, avec Pour la peau.
Comme tu as su attendre, comme tu lui as parlé, et comme elle résistait, elle voulait se défendre, et c'était presque beau de vous voir. Presque beau. Ta patience infinie. C'est non, oui, pas ici. Un jour ça s'est passé. Elle voulait dans ta chambre. Et tout a bien été. Et tout était très tendre. Mais après, comme toujours, ça t'a rendu tout chose. Elle s'est lavée vite fait. Oh, tu savais bien comme c'est. Qu'est-ce que tu ferais pas pour la peau? 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 Ton sang chauffé.
On a compris, Dominica, une chanson très explicitement sexuelle. Question là d'une défloraison, question de compulsion et aussi du fait que la chair soit triste. Morceau très rock, shoegazing presque, oui. Dimension minimale aussi d'ailleurs de ce morceau. Est-ce qu'il est né du texte, ce son-là?
Ouais, en fait, il est né surtout du fait que je travaillais sur ce disque-là en 2000-2001 avec John Parrish, qui est un producteur anglais. C'est mon seul disque anglais et que lui était voilà, c'est ce genre de son de production, il connaissait. Enfin, dès que je lui ai joué le morceau, j'ai présenté les morceaux en acoustique. Il y avait pas de, j'avais pas préenregistré. Tout de suite, bon, lui, il a vu vers quoi on allait et c'était quelque chose qu'il maîtrisait très très bien. Donc, on a été vraiment dans cette espèce de tunnel de son que à l'anglaise que je cherchais à ce moment-là. Le côté très très lancinant du morceau, la rythmique participait de cette espèce de fonctionnait avec le texte. Le texte est né, je m'en souviens plus. Enfin, sincèrement, je dirais que voilà, c'était un, c'est un texte de mec un peu sur la faiblesse aussi, sur une forme de faiblesse masculine. Puis c'est vraiment post-coitum animal triste, hein, c'est vraiment cette idée-là, c'est la frustration qu'engendre l'acte sexuel en fait.
En écoutant, c'était un choix, alors ces quatre-là je les aime particulièrement, mais je me rends compte que très souvent, mais est-ce que c'est vraiment le cas, il faudrait que je réécoute tout, mais j'ai l'impression que le texte il démarre avec la chanson, avec le début de la chanson. Vous savez que
ça
c'est
dépend.
Souvent le cas quand
même. Ça arrive, oui ça arrive, mais c'est pas systématique.
L'attaque. Dans le texte, c'est quand même aussi une façon d'attraper tout de suite l'auditeur.
Ouais, c'est sûr. Oui, c'est sûr.
L'horizon, c'est un truc qu'on a entendu.
Mais... Oui, enfin, je sais pas quoi vous répondre là.
Bah, c'est peut-être une question de cuisine, mais on peut entendre aussi toutes ces chansons, celles qu'on a entendues, et puis la plupart des autres comme des short stories, on dirait en anglais, peut-être des toutes petites nouvelles.
Oui.
Il y a ça aussi dans vos chansons,
Dominica.
Il y a ça,
Dominica. En fait, l'idée qu'il faut, en quelque sorte, planter le décor dès les premières lignes, en fait. Mais c'est même pas un travail, en fait. Ça, je dirais qu'à partir du moment où le propos est suffisamment marqué et assez fort, finalement, ça. Mais c'est souvent la première phrase qui déclenche finalement le déroulement de. Je ne sais même pas si quand j'ai commencé à écrire cette chanson, je me suis dit je vais écrire un morceau qui s'appelle Pour la peau. Peut-être que la première phrase a été comme tu as su attendre et me dire après mais attendre quoi? Et puis il y a un morceau comme ça qui est très pour moi très emblématique quand je repense à son écriture. C'est un morceau qui s'appelle Vers le bleu, qui commence par cette phrase: une ombre passait sur le mur au pied duquel tu m'attendais. Et j'avais ça et je me suis dit tu fais quoi de ça? Et là un fil s'est déroulé et là je me suis aperçu que c'était possiblement un personnage qui s'occupait d'un autre. Et puis finalement, on sent que c'est encore une histoire familiale parce qu'il y a la mère quelque part là-dedans. Donc c'est des chansons où finalement le sujet se dessine en cours de route et après le propos est fort ou non en fonction de sa corrélation et son étroite collaboration avec la musique. Et souvent les meilleures chansons sont écrites dans un laps de temps assez court. Où la musique vient très rapidement appuyer le texte. Généralement, quand j'ai un texte et que je dois m'atteler des mois après à sa mise en forme musicale, je rame un peu parce que je suis plus dans le processus d'écriture est trop découpé pour moi. J'ai vraiment besoin de cette espèce de fusion immédiate entre le mot et la note, en fait.
Mais concernant l'écriture, il y a aussi des livres de littérature publiés. Alors là, sous le nom complet de Dominique Annet, est-ce que ça veut dire que ce sont des écritures distinctes pour vous ou est-ce qu'il y a quand même des passerelles entre écriture de chansons et écriture littéraire, romanesque?
C'est vraiment pour moi très distinct. Après, c'est plus du domaine pour moi de la tentative que de l'aboutissement. Disons que c'était comme je m'acceptais quand j'ai commencé à écrire vraiment en prose pour ces livres, plus comme un auteur. J'avais envie de tout simplement d'aller sur une forme de rapport au texte complètement différent, puisque là il n'y a pas cette jonction, il n'y a pas ce support miraculeux qui est musical. Là il y a vraiment le paysage est totalement dégagé pour le mot, avec toutes les appréhensions qui peuvent en découler pour un chanteur. Et donc pour moi c'est très 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 distinct. Déjà c'est des textes qui sont principalement autobiographiques et clairement assumés comme tels, ce qui n'est pas le cas des chansons où la part fictionnelle est quand même prépondérante là.
Mais dans le travail, alors je reviens plutôt du côté de la musique et de l'écriture, comment est-ce que vous savez qu'une chanson est terminée, qu'il ne faut plus y toucher?
Quand j'ai du plaisir à l'écouter.
Ça prend du temps?
Pas nécessairement, non. Je suis pas du tout perfectionniste. Je dirais qu'à partir du moment où ça me semble solide, la base, l'ossature, guitare-voix en général, la mise en forme musicale relève vraiment du jeu et du jeu avec Dominique Brusson, l'ingénieur du son, et Géraldine Caparc, parce qu'on fait vraiment les disques aussi à trois. Géraldine au départ était plutôt assistante et puis maintenant elle participe vraiment à l'élaboration et la mise en forme sonore et musicale. Mais là c'est vraiment le plaisir de l'arrangement, le plaisir du jeu avec les musiciens, où c'est finalement c'est très simple en fait. Il n'y a pas de dolorisme du tout.
Mais il faut que vous soyez tous les trois être contents de l'écouter. L'avis des autres, ça vous importe, Dominique?
Oui, bien sûr, oui, ça m'importe énormément, oui. Moi, je suis ravi quand je commence à faire écouter autour de moi et que des gens qui me connaissent bien, avec qui je travaille depuis très longtemps, parce que je travaille quand même avec un ensemble de personnes assez un noyau assez stable depuis très longtemps. Et c'est la garantie finalement d'éviter certaines fausses routes. Parce qu'on peut en parler très frontalement et sans tergiverser vraiment. Et puis aussi, c'est quand je sens leur enthousiasme, je me dis, bon voilà, c'est donc qu'il y a quelque chose que j'apporte là, qui n'est pas un retour en arrière trop flagrant ou trop marqué, mais plus ça fait partie d'un parcours qui continue à se dessiner. Donc il y a cette appréhension à chaque fois de faire écouter. Hein, je suis jamais sûr de mon fait, mais globalement je les doutes que j'ai finalement ne font que se confirmer quand il suffit d'observer le visage des gens. Quand vous faites écouter et d'écouter votre propre ressenti pour savoir ce que vous pensez vraiment, mais tous vos doutes se confirment en général et tous vos motifs de satisfaction se confirment également. C'est-à-dire que quelque chose où vous dites tiens là j'arrive sur un terrain où je me suis pas encore totalement exprimé et j'ai l'impression de renouveler un petit peu mon truc. Voilà, je me plante pas. Je pense que je suis assez bon juge de mon travail.
Et à propos de collaboration, Dominica, il y a quand même aussi les réalisateurs des clips, les photographes, ceux qui font les visuels des albums, quelle place vous accordez-vous à l'image ?
Insuffisante, je pense. Je me sens pas très légitime sur ces questions-là. Je suis sensible aux images, mais j'ai un problème avec le portrait photographié. J'ai un problème des fois avec ma propre incarnation, en fait. Donc c'est pas chaque c'est pas une partie de plaisir en fait. J'aime bien travailler avec des gens. Il faut qu'il y ait un dialogue, un échange. Il y a des photographes avec qui j'aime beaucoup travailler, comme Richard Dumas, parce que je suis totalement en confiance, parce qu'on rigole tout le temps, parce que j'oublie au bout d'un moment qu'on est là pour faire une pochette de 10. Et c'est marrant, Richard Dumas, il a fait deux pochettes pour moi, c'est Augury et Léor. Et quand il m'a remis des photos de Léor, je lui ai dit tu m'as encore monalisé. il a une faculté justement à tirer du visage de quelqu'un le meilleur. Et surtout c'est rigolo, c'est que les photos de ces deux albums, c'est les premières. C'est-à-dire qu'on a fait une journée et demie de photos, et évidemment on en utilise pour la presse, pour des photos à l'intérieur. Mais les photos de pochette, c'est la deuxième ou la première. C'est marrant. Et ça, c'est vraiment un truc que je n'ai qu'avec lui. Avec lui. Et pour ce qui est des clips, j'ai travaillé beaucoup avec Gaëtan Châtaignier, qui est un ami et qui est aussi un peu le vidéaste attitré de Philippe Catherine. Mmh. Bon, on est potes tous les trois, donc j'ai besoin, comme je n'ai pas un rapport de confiance, je ne suis pas confiant envers la caméra, je ne suis pas confiant en moi-même de mes capacités face à la caméra, même à mon aisance face à la caméra, donc il faut que ce soit avec de préférence avec des gens avec lesquels je me sens, voilà, je sais qu'ils vont pas, ils savent tout ça, ils connaissent tout ça chez moi et qu'ils en tirent parti, quoi.
Et quand vous voyez les captations de vos concerts, Dominica,
je ne les vois jamais.
Pourquoi ?
Je déteste ça.
Vous détestez vous voir sur scène ?
Je déteste me voir. Ouais, c'est une douleur.
Mais par contre, être sur scène.
J'adore, oui, mais je trouve que ce que je fais, en fait, finalement, ça ne correspond pas à l'idée que je me fais de mes chansons, en fait, de me voir ce corps massif. Je pense que je fais quelque chose d'assez délicat. Le contraste entre les deux, des fois, est trop violent. Mais là, c'est tout ce que je peux dire.
Pour le plaisir, quand même, d'être sur scène, est-ce que c'est un besoin pour vous, les concerts ? Est-ce que vous en faites, quand vous n'en faites pas pendant quelques temps, je ne sais pas si ça vous arrive, est-ce que vous êtes en manque ?
J'ai plaisir à retrouver la scène. Quand j'ai pas fait de concert pendant quelques mois, j'ai plaisir à retrouver l'ambiance du concert, l'ambiance de la préparation du concert, le son, le fait aussi de tout simplement d'envoyer du gros son. J'aime bien ça sur scène, y aller très 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 rock, quoi, parce que c'est en moi aussi, et c'est pas quelque chose que je cherche absolument en studio. Où, là, je suis plus en studio, je suis plus sur l'enluminure, ou plus que sur l'énergie, on va dire. Mais j'aime retrouver ce contact très physique, justement, avec les chansons. Ça, c'est. Mais c'est pas. Je pourrais, je pense, m'en passer. C'est-à-dire que c'est plus. Ça ne m'équilibre plus de faire de la scène. Ça, c'est juste pour moi un prolongement, et c'est finalement une restitution. C'est une présentation du travail qu'on a fait avant. C'est un autre travail. C'est le travail de l'interprète, en fait. C'est une autre partie.
Alors, sur la réception du travail, pour arriver presque à la fin de cette masterclass, Dominica, dans tous les arts, il y a des prix, des récompenses. Vous avez reçu notamment un prix de l'Académie Charles Cros pour l'ensemble de votre œuvre, ce qui est toujours drôle quand elle est en cours.
In honorem.
In honorem. Et puis en 2013, la victoire de la musique de l'artiste interprète masculin de l'année. Quelle importance accordez-vous aux récompenses? Est-ce que vous les percevez différemment selon leur nature, selon leur provenance?
Bah, je leur accorde oui de l'importance comme des marques de d'intérêt et d'une certaine façon d'amour disons-le. J'ai été très touché par ces distinctions parce que j'avais l'impression que elles sont arrivées à un moment donné où voilà, j'avais déjà fait un certain nombre de choses, et puis surtout, je suis pas un chanteur populaire. Il y a un public qui me suit, qui est là et que je remercie de permettre d'avoir ce parcours-là. Mais je dirais que je suis pas un bankable pour une maison de disques, quoi. Donc le fait d'avoir ces distinctions-là, ça entérine aussi le travail qui est fait par des gens depuis des années autour de moi, que ce soit la maison de disques avec qui je travaille 5-7 depuis. Plus de 10 ans maintenant, où ma manageuse Sandrine, le tourneur, c'est le même depuis le début. On a commencé ensemble, Augury Productions, et on continue ensemble. C'est un cas de figure finalement assez rare dans ce métier-là. Ça fait quasiment un quart de siècle qu'on bosse ensemble. Donc j'ai l'impression que ces récompenses-là, voilà, c'est une façon aussi, c'est un retour des choses, un juste retour des choses pour leur travail. Et c'est important aussi pour ne pas sentir l'intérêt de ces personnes-là s'est moussé, parce que d'autres gens sont arrivés, elles ont d'autres artistes à fouetter, si je sais.
Alors, pour finir, Dominique, est-ce que la question de la postérité, elle se pose pour vous?
Ouais, depuis le début. Ouais, c'est marrant, hein, c'est grotesque, puisque... quelle connerie, quoi. Mais oui. Le fait qu'une chanson même me suive ne serait-ce que le temps d'une vie, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai qu'il y a des chansons qui ont maintenant 25 ans, comme Le Courage des Oiseaux, même plus, et qui continuent à m'accompagner et constituent un vrai socle pour ma trajectoire. Et c'est important. Alors il y a toujours cette phrase que je cite souvent, je suis désolé, mais de Barbara qui disait qu'on écrit en fait finalement pour laisser derrière soi dans le meilleur des cas 5 chansons, et c'est sans doute vrai. C'est sans doute vrai. Alors je ne sais pas si j'en laisserai 5 ou 0, mais il y a vraiment cette idée quand même de la chanson, des chansons qui vous suivent, qui sont des vraies pierres blanches en fait sur votre parcours. En soi, c'est une forme de postérité, bon, de son vivant. Après, bon.
C'est la force des chansons. Un film, un livre n'entre pas de la même façon dans la vie des gens. Une chanson, elle peut toujours ressurgir et rester là longtemps.
Elle peut être là même si on ne l'écoute pas. C'est ça qui est assez plus compliqué pour un film ou même pour un livre. La chanson, vous êtes son propre interprète au moment où vous l'avez en tête. Vous pouvez la chanter, vous pouvez pas tourner le film que vous avez en tête, vous pouvez pas écrire le livre. C'est un truc assez dingue, assez d'une immédiateté folle en fait. Il y a une intrusion de la chanson dans la vie des gens qui est géniale.
Éternelle.
Dans le meilleur des cas.
Merci beaucoup.
Merci
Dominique.
À vous. Merci. Merci beaucoup.
C'était la masterclass de Dominique A. avec Arnaud Laporte. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.